France Inter, Ali Badou, 15 minutes de plus.
15 minutes de plus ce vendredi matin et j'ai le bonheur de recevoir un très grand architecte paysagiste belge. Il a inventé le concept de paysage augmenté et il va nous expliquer ce que ça veut dire. Des années maintenant qu'il repense la relation entre la nature et la ville et il a été lauréat en 2022 du concours mondial qui avait été lancé pour réaménager les abords de Notre-Dame. Il enseigne aujourd'hui au département d'architecture de Harvard aux États-Unis. Bonjour Bas Metz.
Bonjour.
Et bienvenue, ravi de vous accueillir. Comme tous les vendredis, on va commencer avec une expérience de pensée et cette expérience-là, vous l'avez mené avec vos étudiants à Harvard. Imaginons qu'on est à Paris, on est en 2050. Il faut imaginer que celle qu'on appelle Paris la ville lumière est devenue la ville chaleur, la ville de la chaleur. Ça n'est pas une dystopie, mais que peut l'architecte paysagiste face à cette réalité-là ?
En fait, on peut repenser l'espace public comme un micro... faut repenser l'espace public comme un lieu où on peut agir sur le vent, sur l'ombre, sur la température, et en fait créer un microclimat, c'est le mot que je cherchais, un microclimat qui permet de rendre la ville plus résiliente par rapport au réchauffement climatique, par rapport à toutes les crises liées au climat.
Donc on n'est pas condamné à avoir chaud, de plus en plus chaud, chaque été qui passe dans une ville comme Paris.
En fait, on le sait bien, les arbres, par leur évapotranspiration, produisent un microclimat et baissent la température ressentie. Du coup, on peut repenser la ville, on peut repenser les rues, les squares, les places, les berges, comme des lieux où on peut améliorer le confort à l'extérieur.
Alors justement, on va voir vos différents espaces d'intervention parce qu'ils sont extrêmement différents et multiples et un peu aux quatre coins du monde. Vous avez fait donc de Paris un case study, comme on dit à Harvard, un cas d'étude pour vos étudiants ou un cas d'école pour qu'ils repensent les passages, pour qu'ils repensent les souterrains. C'est très concret. La ligne 6 du métro, par exemple, qu'est-ce que... À Paris, plus que dans n'importe quelle autre ville, on a comme cas d'école architecturale.
En fait, j'ai demandé aux étudiants de repenser Paris sous quatre conditions. 2025, 2050, 2075 et 2100, avec chaque fois un degré de plus. 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés de plus. Et en fait, ce qui est tellement spécifique à Paris, c'est que grâce à Haussmann et Alphand, il y a une série de typologies comme les rues, les squares, les berges.
Il y a les bâtiments publics, il y a la place de l'Étoile.
Exactement. Et du coup, on peut repenser ces figures sous cet angle du climat. Par exemple, planter plus d'arbres dans les avenues, c'est assez évident.
Oui.
Mais aussi repenser les places. Peut-être pas avoir des grandes pelouses comme on les connaît aujourd'hui, mais les planter de végétaux. Repenser les bâtiments publics qui, grâce à leur masse de pierre, donnent aussi produisent un microclimat à l'intérieur. Et dernière étape, 5 degrés de plus, évidemment une catastrophique.
C'est une catastrophe.
Absolument. Mais là, on peut repenser, par exemple, toutes les carrières. Un tiers de Paris, sous un tiers de Paris, il se trouve des carrières qui sont
notamment
reliées...
Notamment de calcaire.
Exactement. Qui sont reliées par le réseau de métro. Et on peut les repenser comme un espace de refuge en cas de canicule aggravée.
Alors, c'est assez extraordinaire parce que, du coup, vous nous invitez à voir ou à revoir notre ville totalement différemment. Paris, vous la connaissez par cœur. Vous avez... remporter donc ce concours de, je le disais, en 2022 pour réaménager les abords de la cathédrale Notre-Dame qui était en train d'être reconstruite. Ce sera d'ailleurs visible dès l'année prochaine. Il faut s'imaginer, là aussi c'est une autre expérience, une promenade dans une clairière qui est bordée d'arbres. Ce sera le parvis de Notre-Dame, ça.
Oui, on a repensé le parvis comme une clairière, comme une ouverture qui donne sur la façade magnifique occidentale, bordée d'arbres de trois côtés. Et puis on s'est dit comment on peut rafraîchir ce lieu qui chauffe en été. On a pensé le vent qui vient avec la Seine, de le faire passer à travers les arbres. On a pensé l'ombre, l'évapotranspiration. Et puis on s'est inspiré d'une pratique à Paris où on nettoie les rues avec ce réseau d'eau non potable.
Oui.
Et du coup, on va faire ruisseler une fine lame d'eau sur le parvis en jour de grande chaleur et qui va par évaporation rafraîchir immédiatement l'air.
Sur le parvis, c'est-à-dire que ce sera comme une sorte de rigole de 40 mètres de long qui va descendre l'eau extrêmement doucement, donc on pourra voir ça l'année prochaine. Et vous avez repensé le Paris de 2050 en concevant ce parvis de la cathédrale. Vous êtes architecte paysagiste. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'un paysage? Alors qu'il est question, je ne sais pas, d'une ville par exemple. Vous dites on peut lire une ville comme si c'était un paysage. C'est contre-intuitif, c'est métaphorique, c'est joli, mais ça ne semble pas évident.
En fait, je me réfère au grand philosophe Alain Roger qui disait qu'il y a le pays et le paysage. Et pour lui, le pays, c'est le point zéro, c'est l'existant. Et le paysage, c'est une façon de comprendre l'existant. C'est une façon de le comprendre et du coup aussi de l'imaginer, de le transformer. Et pour moi, chaque lieu peut être lu comme un paysage, comme quelque chose qui fait sens et quelque chose dans lequel on peut interagir, intervenir. Et pour moi, une ville est une possibilité d'un paysage. Et du coup, j'essaye de comprendre...
Une ville est une possibilité d'un paysage.
Oui, absolument.
Non, l'expression est magnifique. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut en avoir un exemple. Je parlais de Paris, mais vous avez investi la ville d'Arles, le parc des ateliers de la Fondation Luma. C'était une ancienne friche ferroviaire pendant des années. Et vous l'avez transformée en espace vert et en un espace qui est quasiment magique pour tous ceux qui le connaissent.
Oui, en écologie. Parce qu'en fait, cette friche ferroviaire, il y avait un climat. C'est un climat semi-désertique parce que le béton réchauffait sous le soleil. Il y avait une température ressentie de 55 degrés, du coup très difficile.
55 degrés.
55 degrés, qu'on a réduit à 35, du coup 20 degrés de différence, grâce aux 80 000 plantes qu'on a plantées sur des collines qu'on a imaginées produites par le vent, en fait. On a travaillé sur le Mistral, et on a imaginé ce que la nature aurait fait d'ici 100 ans, 200 ans, et on a accéléré les processus naturels de la succession écologique.
Et vous avez planté des espèces issues de la région méditerranéenne, des arbousiers, des chênes verts, des érables de Montpellier, des pins parasols. C'est toujours la question de la température qui vous anime ou la question de la végétation? Qu'est-ce qui prend le pas chez vous lorsque vous essayez de concevoir, de créer un paysage?
Quand je plante pour les 50 ans et j'espère pour les 100 ans à venir. Du coup, évidemment, il faut que je réfléchisse au climat qu'il y aura dans 50 ans, dans 100 ans, ce qui est très difficile aujourd'hui.
Mais c'est ce qu'on vous demande. C'est votre démarche de paysagiste, c'est-à-dire ne pas planter simplement des plantes, mais avoir ce qu'on appelle le regard du forestier, celui qui regarde justement à 50, à 100 ans.
Oui, comme paysagiste, on a cette obligation de penser pour la nouvelle génération, la génération qui va suivre. Et en même temps, il faut quand même réussir à livrer quelque chose qui marche dès le jour 1. Et ça, c'est la difficulté aujourd'hui avec la crise climatique, c'est de bien imaginer qui va se passer dans 50 ans. Du coup, on essaye d'avoir des sols résilients, on essaye d'avoir une sorte d'écologie qui ensemble, peut être résilient.
Vous avez une très belle phrase, vous dites que votre travail, c'est au fond aider la nature à faire ce qu'elle aurait fait d'elle-même. Mais paradoxalement, vous enseignez à Harvard, les États-Unis, c'est un pays où il y a eu à la fois l'invention des parcs naturels, la préservation de la nature, qu'on peut dire, pour le dire vite, sauvage, et d'un autre côté, c'est là que sont nés les mégalopoles, c'est là qu'est né l'urbanisme, le plus fou et le règne, l'empire du béton et du bitume. Comment est-ce qu'on concilie ça et comment est-ce qu'on s'adresse à des étudiants qui ont ça comme horizon depuis leur naissance?
Oui, aux États-Unis, l'idée d'expérimenter est vraiment dans l'ADN du pays. Et quand j'ai proposé ce studio où chaque année on travaille sur une seule ville, je leur ai dit, voilà, il faut imaginer ce qu'il faut faire aujourd'hui, dans 20 ans et dans 100 ans.
Et on ne vous a pas répondu, Bas, il suffit de monter la climatisation?
Non, je pense que justement dans les universités, ils sont bien au courant qu'il y a un vrai problème et je me suis dit, voilà, c'est ici avec les étudiants les plus brillants qu'il faut trouver des solutions.
Évidemment, et particulièrement dans la plus grande université du monde. On va écouter un film, c'est vous qui l'avez choisi? On va écouter un son, pardon. C'est la bande originale
de Twin Peaks.
Twin Peaks. Twin Peaks, la série télé. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on écoute cette musique qui est devenue culte?
Parce que je trouve que David Lynch, il a réussi à imaginer un paysage comme un protagoniste. Quand on voit Twin Peaks, on se rend compte que la brume dans les pins c'est un personnage qui parle. D'ailleurs, il y a The Lady with the Log, la dame avec
la bûche.
Avec la bûche, qui demande à la bûche ce qui se passe, et que la bûche arrive à nous expliquer des choses qui sont impercevables. Et je trouve que de retrouver ou de donner cette voix et cette personnalité au paysage est essentiel.
Ça veut dire qu'il faut, vous avez cette expression, penser comme des plantes, c'est-à-dire faire des plantes, des arbres, les vrais protagonistes, comme dans Twin Peaks, des grands projets architecturaux, on ne peut pas s'en passer. Un projet architectural, ça ne peut pas se résumer à un geste, comme on dit, à un geste même d'un star architecte.
Oui, je pense que d'ailleurs la science nous le preuve, que les plantes sont beaucoup plus intelligentes qu'on pensait auparavant.
Ah oui.
Et absolument. En fait, vous, si vous n'êtes pas heureux, vous pouvez vous déplacer. Une plante est obligée de rester là où elle est. Ça veut dire qu'elle a besoin d'une connaissance parfaite de son environnement. Pas seulement une connaissance, mais aussi une façon de la manipuler. Du coup, une plante produit l'environnement. Et dans les projets qu'on fait, on essaye de travailler.
Mais comment on veut dire, qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence d'une plante ?
Une plante doit comprendre le danger qui arrive. Par exemple, on sait que les acacias, entre eux, se disent qu'il y a des kudus qui arrivent pour manger les feuilles. Ils diffusent des volatile organic compounds, des VOC, pour s'alerter. On sait que les plantes, par leurs racines, se parlent et s'entraident. Et tout ça, c'est assez récent. C'est vraiment.
Mais du coup, c'est pas une intelligence centralisée, c'est une intelligence qui se diffuse par rhizome, comme on dit en philosophie. Il y a cette expression de paysage augmenté, j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez. C'est en général, quand on parle de réalité augmentée, quand on met un casque de VR en 3D, un paysage augmenté, ça n'a rien de virtuel. Qu'est-ce que c'est ?
En fait, j'ai inventé ce mot pour dire que le paysage fait beaucoup plus qu'être quelque chose d'agréable et d'esthétique. Pour dire que justement, il y a des produits, par exemple l'oxygène, on le sait bien, mais aussi le fait que l'évapotranspiration réduit la température, de vraiment comprendre les plantes comme des, comme on dit en anglais, des agents, des acteurs de l'environnement. Et c'est pour ça que j'ai dit des augmented landscapes, des paysages augmentés. Qui en fait produisent l'environnement dans lequel nous, on peut habiter.
La morale de l'histoire, c'est ce par quoi on termine Bassemetz, c'est une phrase de Darwin. Ce n'est pas l'environnement qui détermine les plantes, mais les plantes qui font l'environnement ?
Absolument.
Ça, c'est votre conviction ?
Ah, mais c'est sûr. Et du coup, dans tous les projets qu'on imagine, on essaye de voir comment on peut utiliser cette intelligence des plantes pour produire l'environnement.
Merci infiniment Bassemetz d'avoir été l'invité de France Inter et des 15 minutes de plus ce matin. Donc dans à peu près combien ? Un an, on pourra voir la clairière de Notre-Dame ?
Non, pas aussi vite. On commence les travaux dans un an et il faudra attendre 3 ans.
Attendre 3 ans avec des arbres qui évidemment seront plantés avec cette quasi-rivière donc, que vous allez imaginer sur le parvis.
Une fine lame d'eau, je préfère.
Une fine lame d'eau, oui, avant de créer des polémiques avec les défenseurs du patrimoine. Merci infiniment, Bassemetz, d'avoir été notre invité.